La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Eh bien bonjour chers auditeurs, auditrices. Je suis Patrick Saporito de l'église baptiste de Toulouse Métropole, EBTM. Le réformateur Jean Calvin a dit que nos familles sont appelées à être de petites églises, et nos églises sont appelées à être des familles. C'est dans la famille que se fait ou devrait se faire la transmission de la parole de Dieu, en nous rappelant que la famille, si controversée aujourd'hui, n'est pas une invention humaine, mais a été instituée par Dieu avec le premier couple, Adam et Ève. Et nous avons tous un problème, c'est que nous oublions facilement. Et Dieu sait que nous avons constamment besoin de nous rappeler sa parole. Et la famille est un endroit privilégié pour la partager. Je vous invite à lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome, chapitre 6, un texte qui parle explicitement de la famille. De l'Ancien Testament, donc, que Dieu avait dicté à Moïse pour les Hébreux qui venaient d'être libérés de l'esclavage. Je lirai donc Deutéronome, chapitre 6, tout le chapitre. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits ?» Tu diras à ton fils « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Si on devait résumer ce passage, on pourrait dire « Si tu veux être heureux et entrer en possession de ton héritage, ton pays promis, eh bien commence par écouter l'enseignement de l'Éternel, afin de le craindre et de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mets en pratique son enseignement tous les jours de ta vie et transmets-le à tes enfants. » Dit autrement, un disciple écoute la parole, la met en pratique et la transmet pour former d'autres disciples. Voyons cela en trois points. Premièrement, l'écoute de la parole de Dieu. Deuxièmement, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et troisièmement, la transmission de la parole de Dieu dans la première école de formation de disciples qu'est la famille. Voyons premièrement l'écoute de la parole de Dieu. Les Juifs pieux répétaient matin et soir les versets 4 à 9 de notre passage comme un credo, le « Écoute Israël » ou « Schéma Israël » en hébreu. Dieu nous demande à tous, adultes, parents et enfants, de tendre l'oreille, pas d'une façon distraite, mais de l'écouter pour lui obéir. Quelqu'un dira peut-être, mais pourquoi obéir à Dieu ? Eh bien, avant l'injonction d'obéir, Dieu nous demande de l'aimer, lui, et de le craindre. Mais quelqu'un dira peut-être, mais pourquoi l'aimer, lui, plus que tout ? Eh bien, à cause de ses actes qui renforcent sa légitimité. Dieu a agi en faveur des Israélites pour les délivrer de l'esclavage des Égyptiens par des prodiges comme les 10 plaies d'Égypte et ouvrir la mer en deux. Et ce sont des faits réels, ce sont des faits avérés par lesquels Dieu a prouvé sa toute-puissance et son amour aux Israélites pour susciter l'amour en eux en retour. Le schéma « Écoute Israël » commence ainsi à partir du verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Jésus citera ce même verset 5 en Matthieu chapitre 22, versets 37 et 38, pour rappeler aux pharisiens, les chefs religieux, que ce premier commandement est aussi le plus grand commandement. Et en Matthieu chapitre 22, verset 39, juste à la suite, Jésus a dit que le second commandement d'aimer son prochain comme soi-même est semblable au premier d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Et qui sont nos proches prochains, sinon nos familles, mari, femme, enfant? Mais attention aussi à ne pas faire l'inverse, à mettre notre famille en premier sans avoir Dieu au centre de notre vie. Et Jésus nous le rappelle bien dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 37. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Fin de citation. Ce premier commandement d'aimer Dieu par-dessus tout, c'est le préalable, incontournable et indispensable à la transmission de sa parole aux enfants. Sinon, nous ne pourrons pas aimer nos familles comme Dieu le désire. Dieu avait et a toujours à cœur que sa parole habite dans nos maisons et aussi dans nos cœurs. Et la meilleure arme à donner à nos enfants contre Satan est de leur inculquer, aussi bien par l'oral que par l'écrit, la parole de Dieu. Jésus a lutté contre le diable, non pas en argumentant, en cherchant à discuter avec lui, mais en citant la parole de Dieu et en répondant « Il est écrit ». Voyez cela dans l'évangile de Matthieu chapitre 4. Je crois à l'importance de la mémorisation des versets bibliques par les enfants et aussi par nous adultes. D'ailleurs, l'expression « apprendre par cœur » vient de Deutéronome chapitre 6 verset 6. Je le relis. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Fin de citation. À l'époque de Christ, les Juifs attachaient littéralement des portions de la loi entre les yeux et sur leurs mains. Les mains pouvaient signifier l'importance de mettre en pratique les commandements, et les yeux le rappellent de les avoir constamment sous les yeux. Et oui, écouter la parole ne suffit pas, même si ça commence par là. Dieu accorde une importance particulière à la mettre en pratique. Expression répétée au verset 1, afin que vous les mettiez en pratique, verset 3, tu auras soin de les mettre en pratique. Verset 24, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois. Et verset 25, si nous mettons soigneusement en pratique tous ses commandements. Fin de citation. Voyons maintenant mon deuxième point, la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce passage de Deutéronome 6, suit bien sûr Deutéronome 5, où Dieu a donné les 10 commandements aux Israélites, c'est-à-dire après qu'il les ait libérés de l'esclavage des Égyptiens. Alors la loi, les 10 commandements, n'étaient pas pour remettre les Hébreux sous un esclavage, un joug insupportable. Non, de l'obéissance complète à la loi dépendait le bonheur des Israélites et de leurs enfants. Et Deutéronome, chapitre 5, verset 29, nous dit « Dieu dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Fin de citation. La loi morale de Dieu, qu'on trouve dans les 10 commandements, nous a été donnée pour nous montrer premièrement le caractère de Dieu. Y obéir devait marquer la différence entre les Israélites et les autres peuples habitant le pays promis, pays de délices découlant de lait et de miel. Deuxièmement, les 10 commandements montrent que la loi est bonne, car si tout le monde la respectait, eh bien la vie sur terre serait autrement moins pénible. Les 10 commandements sont un minimum que les enfants devraient connaître de la loi de Dieu. La suite de l'histoire d'Israël montrera que les Israélites ne manifesteront pas ce même cœur pour mettre en pratique les commandements divins, parce qu'ils en étaient incapables. Mais ne les blâmons pas. La Bible parle d'un esclavage qui nous a tous atteints, celui-là, celui du péché, la désobéissance à Dieu. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23, nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En effet, la troisième raison pour laquelle la loi de Dieu a été donnée, avec l'exigence d'être accomplie à 100% et chaque jour, est de nous montrer que nous sommes incapables d'y obéir à 100% par nous-mêmes, et donc que nous avons besoin d'un sauveur. Eh bien, Dieu nous a envoyé ce sauveur en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, le seul sans péché ayant accompli à 100% la loi de Dieu. Lui qui ne méritait pas d'être puni a accepté de prendre sur lui à notre place la punition que méritait notre désobéissance, par sa mort sur la croix. C'est Dieu qui avait préparé pour les Hébreux un héritage dans le pays promis, qui ne leur a coûté aucun effort, des villes, des biens, des vignes. C'est le propre de tout héritage d'être obtenu sans effort. C'est un cadeau, une grâce de la part du donateur. Alors en quoi Deutéronome 6 nous concerne-t-il, nous autres, Église de Jésus-Christ, communauté des croyants qui l'ont accepté? Quel est notre pays promis, notre héritage? Eh bien, la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, nous donne la réponse. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Fin de citation. Voilà l'héritage de tous ceux qui ont accepté Jésus. Il s'agit de la vie éternelle, la vie de Christ en nous qui avons cru en lui et qui nous est déjà donnée par grâce sans que nous le méritions. Et nous pouvons jouir déjà ici-bas de cet héritage, dans notre communion personnelle avec le Christ et aussi en Église et aussi en famille. Aussi, c'est bien de jouir des dons que Dieu nous a donnés, mais attention à ne pas oublier le donateur. Dans notre texte, au verset 12, Dieu mettait en garde les Israélites contre le danger de l'oublier, lui, une fois installé dans le pays promis. Et c'est encore vrai pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Nous sommes pardonnés en Christ, tout croyant. Mais où en est notre vie chrétienne? Est-ce que notre vie chrétienne s'arrête au pardon de nos péchés et puis la vie continue comme avant? Ou bien notre vie est-elle transformée de jour en jour à l'image de Christ? Aussi, attention à ce que les enfants ne se disent pas « L'important est d'accepter Jésus dans mon cœur et après je peux faire ce que je veux. » Non, ça s'appelle une grâce bon marché. Mais la grâce qui a coûté à notre Seigneur invite à l'obéissance. Nous avons été sauvés pour obéir chaque jour par amour, non pas à un ensemble de règles, mais au donateur, au Seigneur Jésus qui s'est donné pour nous, qui vit et qui nous aime. Jésus dit lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Fin de citation. Aussi, dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, nous lisons « Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement. » Fin de citation. Le commentateur William MacDonald rappelle que L'obéissance à la loi était moins un moyen de s'attirer les faveurs de l'Éternel qu'une façon de lui montrer de l'amour. Dit autrement, mieux vaut obéir par amour que par intérêt. C'est une question de motivation. C'est plus facile d'obéir à quelqu'un qu'on aime et qu'on sait qu'il nous aime. L'amour pour Dieu est plus qu'un sentiment. Ça engage tout notre être, notre volonté, notre cœur et notre action. Où est-ce que les enfants apprennent à obéir? C'est dans la famille, premièrement. Et le commandement de Dieu donné aux parents, au verset 7 de notre texte, d'enseigner, d'inculquer sa parole aux enfants, revient à en faire des disciples. Le grand mandat missionnaire de faire des disciples dans le monde entier commence dans la famille, à la maison, et avait déjà été donné à Abraham envers sa propre famille. En Genèse chapitre 18, versets 18 et 19, nous lisons « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Fin de citation. Ce commandement vaut toujours aujourd'hui, encore plus de par ce que les enfants entendent à l'école et autour d'eux. Voyons maintenant mon troisième point, la transmission de la parole de Dieu dans la première école de formation de disciples qu'est la famille. On pourrait résumer le schéma Israël ou écoute Israël ainsi. Aime d'abord Dieu de tout ton cœur et enseigne tes enfants avec la parole de Dieu à faire la même chose. Au verset 1 de notre texte, Dieu commande littéralement que ses commandements soient enseignés. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Fin de citation. Nos maisons doivent être les premiers centres de formation de disciples et de découverte de la foi. Et les parents sont appelés à être les premiers formateurs de leurs enfants. Dieu a créé la famille pour y cultiver un profond amour pour lui, pour Christ et sa parole. L'apôtre Paul rappelle le rôle important du père, du chef de famille, dans sa lettre aux Éphésiens. Si le chef de famille se convertit, toute sa famille en sera au bénéfice. Et les mamans ne sont pas oubliées, et même les grands-parents ont un rôle à jouer dans la transmission de la parole aux enfants et petits-enfants. Paul, taxé à tort parfois de misogyne, rappelle à Timothée, dans sa deuxième épître à Timothée chapitre 1 verset 5, qu'il a été instruit à salut dès son enfance par sa mère et sa grand-mère. Et en effet, son père était grec, donc non-juif. Les grands-parents sont aussi cités dans notre texte, Deutéronome 6 verset 2. Toi, ton fils et le fils de ton fils. Alors, peut-être vous posez-vous la question, mais comment enseigner la parole de Dieu aux enfants, la Bible? Eh bien, avant d'enseigner des idées ou des doctrines, nous sommes appelés à leur enseigner des faits. Et ça tombe bien parce que les enfants ont soif de vérité. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait que les générations qui n'avaient pas vécu l'Exode le connaissent, lui et ses prodiges, comment il s'y est pris pour délivrer son peuple de l'esclavage. Et pour cela, il a demandé aux parents de leur laisser des témoignages écrits et oraux. Le mot traduit par « ordonnance » et « précepte » au verset 17 et verset 20 veut dire aussi « témoignage ». Et pour ne pas que les parents soient pris au dépourvu, la parole de Dieu au verset 20 avait prévu que les enfants leur poseraient des questions sur Dieu et sa parole. Et c'est prioritairement aux parents d'y répondre, selon l'expression du verset 21 « tu diras ». Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Fin de citation. Je crois que c'est une bonne chose que de laisser les enfants assister au repas du Seigneur. Car ainsi, après le culte autour d'un bon poulet frites, dimanche midi, eh bien, ils peuvent poser des questions aux parents sur ce que signifient le pain et le vin. Le pain qui signifie le corps de Jésus qui a souffert pour nous, et le vin signifiant son sang qui a été versé pour nous, pour notre pardon. Et cela peut vous conduire ainsi à annoncer l'évangile aux enfants, qui est un témoignage, le témoignage véridique des apôtres qui ont connu personnellement Jésus. Rien de nouveau donc, pas de nouvelles doctrines, mais des faits. Le témoignage véridique de la parole de Dieu, qui nous dit qui il est et ce qu'il a fait. Voilà ce que nous sommes appelés à transmettre aux petits comme aux grands. Et bien sûr, nous pouvons leur donner notre propre témoignage de conversion, qui sont aussi des faits. C'est très bien de demander aux enfants ce qu'ils voudront faire plus tard. Et vous qui êtes parents, vous êtes certainement déjà posé la question, qu'est-ce que je désire pour mes enfants que j'aime ? Quel parent ne voudrait pas avoir des enfants bien élevés, ayant une bonne situation plus tard, ayant fondé une famille, ayant une belle maison ? Tout cela est très bien, mais ça ne les rendra pas meilleurs, ni ne les sauvera. La question prioritaire est plutôt, est-ce que je veux que mes enfants soient sauvés par Jésus ? Est-ce que j'aimerais en faire ses disciples et les aider à découvrir le plan de Dieu pour leur vie ? Il ne s'agit pas de leur mettre la pression pour qu'ils se convertissent, mais de les enseigner dès leur plus jeune âge, de leur transmettre fidèlement l'Évangile, de sorte qu'ils sachent que Dieu attend une réponse de leur part. Puis, de les laisser venir eux-mêmes à Jésus. Et je dis bien venir à Jésus et non pas à une religion. Et quand vient le doute chez certains enfants en grandissant, quand vient l'âge des remises en question, quand vos paroles de parents ne suffisent plus à les convaincre, que faire ? Eh bien, c'est votre vie qui prend le relais. Le schéma, le « Écoute Israël » est un des premiers textes que tous les jeunes enfants juifs apprennent. Alors vous pensez qu'ils connaissent ce que Dieu demande aux parents ? Ils vous observent pour savoir si vous vivez ce que vous dites. La foi des parents influencera forcément celle de leurs enfants. C'est plus notre vie qui doit parler à nos enfants que nos paroles. Vous connaissez ce dicton peut-être ? Ce que tu es parle tellement fort que je n'entends plus ce que tu dis. Nos vies manifestent-elles que la parole de Dieu est dans nos cœurs, que nous aimons Jésus ? C'est en voyant leurs parents vivre leur foi, lire la Bible et prier parce qu'ils aiment Jésus de tout leur cœur et qu'ils observent eux-mêmes le premier commandement, que les enfants auront envie de faire de même. Nous avons une amie missionnaire qui a œuvré parmi les enfants, et qui œuvre toujours d'ailleurs, et qui dit avoir été influencée dans sa foi en voyant sa mère lire sa Bible. Une autre maman, Suzanne Wesley, avait une curieuse façon de prier au beau milieu de ses 11 enfants qu'elle élevait et enseignait. Elle s'asseyait sur une chaise dans la cuisine et couvrait sa tête et son visage avec son tablier, montrant ainsi à ses enfants qu'elle ne devait pas être dérangée car elle était en train de parler à Dieu. Elle n'attendait pas que ses enfants soient couchés ou bien hors de la maison. Elle laissait sa foi et ses prières prendre la place centrale dans sa maison. Et nous connaissons deux de ses fils qui ont eu une grande influence dans le monde chrétien des années 1700. Il s'agit de Charles Wesley, auteur de nombreux cantiques, et John Wesley, fondateur des églises méthodistes. Les enfants adoptent souvent ce que leurs parents ont manifesté. Alors que Dieu aide chacun de nous dans son église à être de bons modèles pour nos enfants et ceux qui nous entourent, en comptant sur sa grâce, son amour, son pardon, sachant que les familles parfaites, ça n'existe pas. Les familles citées dans la Bible étaient loin d'être parfaites. Mais Dieu a choisi de composer avec des familles, des gens imparfaits qui l'aiment de tout leur cœur pour le faire connaître lui et pour que toute la gloire lui revienne à lui seul.
Marcher par amour pour toi, apprends-moi à voir tout comme toi, celui qui ne te connaît pas. Que ma vie soit un écrit qui proclame que tu vis. Fais de moi ton serviteur, mon roi, que je sois ta joie. Serviteur, mon roi, utilise-moi. Je veux te servir, mon roi, marcher par amour pour toi. Apprends-moi à voir tout comme toi, celui qui ne te connaît pas. Que ma vie soit un écrit. Serviteur, mon roi, que je sois ta joie. aide-moi ton serviteur, mon roi, utilise-moi. Fais-moi ton serviteur, mon roi, que je sois